Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'espionne de Prague, partie 1 » de Caroline Merz est un roman historique sentimental situé à Prague en 1943. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, le récit suit Renata, dont la vie bascule lorsque sa nièce est enlevée par les Sœurs Brunes, une organisation nazie liée à la politique raciale du régime. À partir de cette situation, le livre combine plusieurs registres drame familial, espionnage, tension morale et romance. L'intérêt principal de l'ouvrage tient à sa manière d'inscrire une intrigue émotionnelle dans un cadre historique rigoureusement sombre, sans dissocier les sentiments des violences de l'époque. Comme il s'agit de la première partie d'une série en deux volumes, ce roman construit aussi une montée dramatique destinée à être poursuivie ensuite. Il s'adresse donc au lecteur qui recherche une fiction immersive, documentée et centrée sur les dilemmes humains provoqués par la guerre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un décor historique précis au service de la crédibilité du récit. Le choix de Prague en 1943 donne au roman un ancrage historique fort, car la ville se trouve alors sous domination nazie et dans une atmosphère de surveillance arbitraire et de peur. Ce cadre n'est pas seulement décoratif, il structure toute la logique du récit. En situant l'intrigue dans un espace européen marqué par l'occupation, Caroline Merz peut exploiter des tensions très concrètes, comme la méfiance, les restrictions et la fragilité des liens sociaux. La précision du contexte renforce la vraisemblance des choix des personnages, notamment lorsqu'ils doivent agir dans l'urgence ou dissimuler leurs intentions. Le roman se distingue ainsi des fictions historiques qui utilisent la guerre uniquement comme toile de fond. Ici, le contexte influence directement les relations, les déplacements et les risques. Cette cohérence historique donne de la densité au récit et permet au lecteur de comprendre que chaque décision relève autant de la survie que de l'émotion. Deuxièmement, l'enlèvement de la nièce comme moteur dramatique et moral, l'élément déclencheur du roman est l'enlèvement de la nièce de Renata par les Sœurs Brunes, organisation présentée comme impliquée dans une politique d'enlèvement d'enfants ariens. Ce point de départ donne immédiatement au récit une dimension de violence intime, car le conflit historique entre en collision avec un lien familial direct. Le roman ne se contente donc pas de montrer la guerre comme phénomène collectif. Il en expose les effets les plus personnels. Renata est placée dans une position où l'action n'est plus un choix abstrait, mais une nécessité affective et morale. Cela permet au récit d'explorer la limite entre loyauté, prudence et transgression. La structure dramatique repose sur cette tension pour retrouver l'enfant. Il faut accepter des compromis, parfois des mensonges ou des formes de trahison. Le roman transforme ainsi une intrigue historique en dilemme éthique, ce qui intensifie l'implication du lecteur et donne du poids à chaque décision. Troisièmement, une romance intégrée à la guerre plutôt qu'opposée à elle. Le livre appartient au roman historique sentimental, mais la romance n'y fonctionne pas comme une parenthèse détachée du conflit. Les éléments affectifs sont au contraire insérés dans une situation extrême, ce qui modifie leur portée. Dans un contexte de guerre, l'amour devient moins un divertissement qu'une ressource fragile, menacée par la peur, les contraintes politiques et les loyautés contradictoires. Cette intégration explique pourquoi la relation sentimentale ne prend pas le pas sur l'histoire, tout en restant essentielle au rythme émotionnel du récit. Le lecteur n'est pas invité à choisir entre intensité historique et intensité amoureuse, les deux dimensions se renforcent mutuellement. La romance permet de rendre plus visibles les vulnérabilités des personnages, tandis que le contexte de guerre empêche toute idéalisation facile. Ce positionnement est important dans le genre, car il distingue le roman d'une simple fresque sentimentale. Ici, l'attachement entre les personnages devient un enjeu de survie, de confiance et de résistance intime. Quatrièmement, Renata, un personnage construit autour de la détermination et du sacrifice. Renata apparaît comme le centre moral et émotionnel du roman. Son intérêt ne vient pas seulement de sa fonction dans l'intrigue, mais de la manière dont elle incarne la résistance ordinaire face à une situation impossible. Les retours de lecteurs soulignent sa complexité et sa détermination, ce qui laisse entendre un personnage capable d'agir malgré la peur et les pertes. Dans ce type de récit, la force du protagoniste dépend souvent de sa capacité à rester humain sous pression. Et c'est précisément ce que permet la figure de Renata. Elle doit concilier amour, loyauté familiale et survie personnelle, ce qui l'oblige à prendre des décisions ambivalentes. Le roman gagne alors en profondeur psychologique, car le combat n'est pas seulement extérieur. Renata doit composer avec ses propres limites, ses doutes et les conséquences de ses choix. Cette construction donne au récit une dimension d'identification forte tout en évitant un héroïsme trop simpliste. En dernier lieu, une écriture immersive fondée sur la documentation et l'intensité émotionnelle. La réception du livre insiste sur deux aspects complémentaires, le travail de recherche historique et l'intensité émotionnelle de la plume. Cette combinaison est essentielle pour comprendre la singularité du roman. La documentation permet de maintenir une base crédible, tandis que l'écriture cherche à transmettre au lecteur l'opacité morale et la douleur de l'époque. Le résultat est une lecture immersive, souvent décrite comme fluide et addictive, parce que l'histoire avance sans dissocier informations historiques et réactions affectives. Cet équilibre est particulièrement important dans un roman de Seconde Guerre mondiale, où la surenchère dramatique peut vite réduire la portée du propos si elle n'est pas soutenue par une réalité historique solide. Caroline Mertz semble au contraire utiliser l'émotion comme un outil de lecture du contexte, et non comme un simple effet. Cela donne au livre une identité nette dans sa catégorie, il vise autant la sensibilité du lecteur que son intérêt pour une période historique précise. En conclusion, L'espionne de Prague, partie 1, conviendra surtout aux lecteurs de romans historiques qui recherchent une intrigue située pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une forte charge émotionnelle et une dimension sentimentale assumée. Le livre s'adresse aussi à ceux qui apprécient les récits où l'enjeu intime rejoint le contexte politique, car l'enlèvement de la nièce de Renata transforme immédiatement l'histoire en combat personnel. Sur le plan intellectuel, le roman offre une entrée accessible dans la réalité de Prague occupée, tout en montrant comment la guerre déforme les liens familiaux, la confiance et les choix moraux. Ce qui le distingue de nombreux titres du même genre, c'est l'équilibre entre documentation historique, tension dramatique et romance, sans que l'un de ces éléments efface les autres. La première partie joue également un rôle de mise en place solide pour la suite de la série, ce qui peut séduire les lecteurs aimant les sagas construites sur une progression émotionnelle continue. C'est un roman particulièrement adapté à ceux qui veulent une lecture à la fois immersive, sombre et centrée sur les conséquences humaines de l'histoire. Si vous souhaitez soutenir Caroline Mertz, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.